VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, le monde aujourd'hui en direct du studio 13 à Washington avec Tatiana Mosso. Voici les titres de cette édition du lundi 20 mars 2017. Burkina Faso, un militaire a été blessé lors d'une attaque à la roquette d'une position de l'armée dans le nord du pays. Rencontre entre le président rwandais Paul Kagame et le pape François, une première après des relations tendues entre Kigali et l'Église catholique. Aux États-Unis, accusation de collusion avec la Russie, fausse information, tweet Donald Trump le jour d'une audition publique des directeurs du FBI et de la NSA. Nous irons aussi au Togo avec notre correspondant pour la deuxième journée du championnat de football féminin. Et puis ne manquez pas vos rendez-vous avec les sports et la Minute Éco, mais tout de suite le journal. Les autorités burkinabées ont annoncé qu'un militaire a été blessé lundi lors d'une attaque à la roquette d'une position des forces armées à Nassoumbou, près de la frontière avec le Mali, dans le nord du pays. Les précisions de Solange Niamouliza.
Le camp des Nassoumbou regroupe des policiers, militaires et gendarmes. Il a été attaqué ce matin par des hommes non encore identifiés. Il y a eu 3 tirs des roquettes qui ont fait un blessé, un militaire qui a été évacué sur Djibo, chef-lieu de la province du Soum. Un témoin dit avoir entendu des tirs nourris et des grosses détonations. Dès le premier coup de feu, tous les habitants ont fui pour s'éterrer chez eux. Un chef de la police a indiqué que des opérations de ratissage ont été lancées à la recherche des assaillants et pour sécuriser la zone. Un gendarme a été blessé dans une embuscade contre une patrouille la nuit dernière à Pétega, dans la même commune. Cette information n'a pas été confirmée par les autorités, mais à la mi-décembre, 12 soldats ont été tués lors d'une attaque djihadiste dans la même région.
À la suite d'une audience avec le président rwandais Paul Kagame, le pape François a imploré à nouveau le pardon de Dieu pour les implications de l'Église catholique durant le génocide de 1994 au Rwanda. Claire Morin-Gibourg.
C'est la première fois que le président Paul Kagame a été reçu par le pape. L'audience a duré 20 minutes. Le Vatican a fait savoir que le pape François, à cette occasion, a exprimé, je les cite, sa profonde tristesse et celle du Saint-Siège et de l'Église pour le génocide contre les Tutsis et sa solidarité avec les victimes et ceux qui continuent à souffrir des conséquences de ces tragiques événements. Après le premier mea culpa encouragé par Jean-Paul II durant le grand jubilé de 2000, l'Église catholique du Rwanda avait demandé pardon en novembre dernier en reconnaissant la nécessité de regarder l'histoire en face et l'accepter. Des excuses que Kigali avait qualifiées de profondément inadéquates, estimant que le Vatican lui-même devrait demander pardon. L'Église catholique a été à plusieurs reprises mise en cause pour sa proximité avec le régime Hutu extrémiste de l'époque. Entre avril et juillet 1994, de nombreuses églises ont été le théâtre de tueries de masse et des prêtres ont été reconnus coupables d'avoir livré les fidèles aux génocidaires.
Un avion de ligne transportant 45 personnes s'est écrasé au moment d'atterrir lundi à l'aéroport de la ville de Wau, dans le nord-ouest du Soudan du Sud. Gabriel Ngang, le directeur de la compagnie South Supreme Airlines, a indiqué qu'il y avait 40 passagers et 5 membres d'équipage à bord. L'avion effectuait la liaison entre Juba et Wau. Selon une source aéroportuaire, le crash aurait été causé par les difficiles conditions météo. Au Mali, l'ex-chef de la junte, Amadou Sanogo, accusé d'assassinat et complicité d'assassinat de soldats, a déclaré dimanche à l'AFP qu'il était innocent et pressé de dire sa vérité. Le procès du chef de l'ex-junte malienne de 2012 à 2013, entamé fin novembre 2016, devant une cour d'assises de Sisako, a été suspendu en décembre et doit reprendre en mars-avril. Au Ghana, 20 lycéens sont morts noyés ou écrasés par des chutes d'arbres alors qu'ils nageaient dimanche dans une rivière pendant une tempête. Cet accident s'est déroulé aux chutes de Kitampo, dans le centre du pays, une attraction touristique populaire de la région de Bron-Afao. Au pouvoir, depuis les premières élections libres de l'histoire du pays en 1994, l'ANC a subi l'an dernier un revers cinglant lors des élections locales en perdant le contrôle de villes emblématiques comme Johannesburg et la capitale Pretoria. Sous la menace d'une défaite historique en 2019, le parti semble aujourd'hui plus divisé que jamais. Un petit-fils de Nelson Mandela a rejoint le camp des frondeurs contre le président Jacob Zuma, englué dans plusieurs scandales. Et puis le président algérien Abdelaziz Bouteflika, dont l'état de santé fait l'objet de spéculations, a fait dimanche sa première apparition à la télévision depuis l'annulation en février de la visite de la chancelière allemande Angela Merkel. En 2013, M. Bouteflika a été frappé par un accident vasculaire cérébral qui a affecté sa mobilité et son élocution. Et puis cette nouvelle au Mozambique, où un joueur de football de 19 ans a été tué la semaine dernière à Tété, dans l'ouest du pays. Un crocodile l'a happé alors qu'il s'entraînait au bord d'un fleuve. Estavo Alberto Gino jouait dans le club de deuxième division de l'Atlético Mineiro de Tété et vivait près du fleuve Zambèze.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À Washington, justement, la commission du renseignement de la Chambre des représentants a commencé aujourd'hui une audience publique sur les relations de Moscou avec Donald Trump. Le chef du FBI, James Comey, et son homologue Mike Rogers de la NSA, agence de surveillance des communications, sont interrogés sur les relations entre la Russie et le camp Trump. Le point avec Dilly Dico.
C'est une première, une audition publique des directeurs du FBI et de la NSA sur une collusion possible entre le clan Trump et la Russie. Les responsables du renseignement américain doivent répondre à des questions sur le rôle de la Russie dans les élections, les relations du Kremlin avec l'équipe Trump et des accusations de mise sur écoute de Donald Trump. Le directeur du FBI, James Comey, a contredit le président Donald Trump qui a accusé Barack Obama il y a plus de deux semaines dans ses tweets d'avoir placé la Trump Tower sur écoute pendant la campagne présidentielle de 2016. Le département de la justice n'a pas d'informations soutenant ces tweets, a déclaré James Comey lors de l'audition à la Chambre des représentants. Quant au rapport indiquant que la Russie avait piraté les comptes de responsables démocrates et aurait tenté de peser sur le scrutin présidentiel pour avantager Donald Trump, il n'existe pour l'instant aucune preuve sur cette éventuelle campagne de déstabilisation. L'audition va donc permettre d'avoir des informations complémentaires et de savoir s'il y a des développements sur ces dossiers.
Et puis l'ONU, environ 3000 personnes ont été secourues dimanche en Méditerranée au large de la Libye. Des précisions d'Anastasie Tudiech.
C'est ce que les gardes-côtes appellent un phénomène de concentration. Après des jours calmes, les migrants arrivent par vagues successives, profitant de la météo favorable. L'Aquarius, un navire humanitaire, a secouru 946 personnes, dont 200 mineurs non accompagnés, qui dérivaient à bord de 9 bateaux de fortune. Selon des statistiques du gouvernement italien, du 1er janvier au vendredi 17 mars, plus de 16 200 personnes ont été secourues, contre près de 12 000 durant la même période en 2016. Les ministres de l'Intérieur du groupe de contact sur la Méditerranée centrale sont réunis à Rome pour discuter d'un plan pour stopper les flux migratoires depuis la Libye. Un an après l'accord conclu avec la Turquie pour stopper les flux de migrants vers la Grèce, l'Union européenne cherche à établir un arrangement similaire avec Tripoli, une démarche fortement compliquée par le chaos qui règne dans le pays.
L'ONU a demandé lundi à toutes les parties au conflit du Yémen de faire la lumière sur l'attaque contre un navire de migrants somaliens qui a fait plus de 40 morts la semaine dernière au large des côtes yéménites. Plus de 40 Somaliens, dont des femmes et des enfants, ont été tués très tôt vendredi dans l'attaque d'une embarcation à bord de laquelle se trouvaient quelques 150 réfugiés au large de Hodeïda, sur la mer Rouge. L'origine de l'attaque n'a pas encore été déterminée. Le gouvernement turc a mis lundi l'Europe en garde contre le piège du fascisme, défendant l'emploi de ce terme et celui du nazisme dans sa crise diplomatique avec plusieurs pays européens. Nous pouvons entendre le bruit de bottes du nazisme et du fascisme. Des mesures doivent être prises contre cela. Nous le disons aux pays européens pour qu'ils ne tombent pas dans le piège du fascisme, a déclaré le vice-premier ministre turc lors d'une conférence de presse. Et le président de Google Europe a présenté, lui, lundi, des excuses du géant de l'Internet pour la diffusion de publicités à côté de contenus controversés, notamment sur YouTube, au moment où de nombreuses entreprises britanniques suspendent leurs annonces. Parmi les messages controversés figurent des propos défendant le viol, des termes antisémites et des prêches incitant à la haine. Et puis cette histoire entre la Chine et le Brésil, le deuxième acheteur de viande bovine et de volaille brésilienne a suspendu lundi les importations de ses produits en provenance du Brésil après la découverte d'un vaste réseau de commercialisation de denrées avariées. Vendredi, au terme de 2 ans d'enquête, la police brésilienne a révélé l'existence d'un réseau de corruption présumé où des inspecteurs des services sanitaires recevaient des pots de vin de la part d'entreprises de l'agroalimentaire pour émettre des certificats destinés à des denrées avariées sans réaliser de contrôle. Et voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'édition. C'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité économique en Afrique préparée cette semaine par Jacques Aristide.
Un montant record. La Banque mondiale va investir une enveloppe de 57 milliards de dollars sur les 3 prochaines années en Afrique subsaharienne. Le gros du financement, soit 45 milliards de dollars, va provenir de l'Association internationale de développement, l'agence de la Banque mondiale, qui accorde des dons et des crédits à taux zéro aux pays les plus pauvres. 448 projets déjà en cours en Afrique subsaharienne, région qui représente à elle seule plus de la moitié des pays éligibles à de tels financements, vont en bénéficier. Il s'agit notamment de programmes en faveur de l'éducation, des services de santé de base, de la propreté de l'eau et de son traitement, de l'agriculture, du climat des affaires, des infrastructures et des réformes institutionnelles. Autre soutien international au continent africain, les pays les plus riches du monde, réunis en Allemagne pour un G20 Finance, ont affiché ce week-end leur volonté de stimuler le développement économique de l'Afrique en y attirant des investissements de manière à développer l'emploi et les infrastructures. L'Allemagne a fait de ce partenariat, appelé Compact with Africa, une priorité de sa présidence du G20 cette année. L'Égypte a reçu durant le week-end les 2 premières livraisons de pétrole du géant saoudien Aramco après une suspension de plusieurs mois. 2 livraisons supplémentaires seront effectuées les 26 et 27 mars. Aramco avait décidé en octobre dernier de ne plus approvisionner l'Égypte au moment où les deux pays avaient fait éclater leur désaccord au sujet de la Syrie.
Et tout de suite la page des sports avec vous Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Tatiana, bonsoir à tous.
Et un arbitre ghanéen sanctionné.
L'arbitre ghanéen Joseph Lamptey, déjà sanctionné par la Confédération africaine de football, a été suspendu ce lundi à vie par la FIFA pour avoir manipulé le résultat du match Afrique du Sud-Sénégal. C'était le 12 novembre dernier. Le Sénégal avait été battu 2-1 par les Bafana Bafana en qualification du Mondial 2018. Le 22 novembre, la CAF avait décidé de suspendre Joseph Lamptey pour 3 mois pour avoir accordé un pénalty pour une main qui n'existait pas. Après enquête de la FIFA, instance suprême du football, le directeur du jeu a été reconnu coupable de manipulation d'un match pour avoir influencé illégalement le résultat. En revanche, toutes les charges pesant sur un autre arbitre ghanéen, David Leonard Larayi, ont été rejetées par l'instance disciplinaire de la FIFA.
Ligue des champions d'Afrique, Mazembe éliminé.
Les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns, tenants du titre, se sont qualifiés ce week-end pour la phase de poule de cette Ligue des champions après leur match nul un partout contre les Ougandais de Kampala Capital City Authority. C'était en match retour des 16e de finale. En revanche, le tout-puissant Mazembe est déjà éliminé à la suite de son match nul 0-0 contre les Zimbabwéens de Caps United. Quant à l'Espérance de Tunis, double vainqueur de la compétition, elle a réussi à éliminer le club guinéen de Oroya après une double confrontation.
Et en tennis, Roger Federer remonte au classement ATP.
Roger Federer a gagné 4 places pour remonter au 6e rang du classement mondial au lendemain de sa victoire dans le Masters d'Indian Wells, ce qui lui permet de repasser devant son grand rival historique Rafael Nadal qui descend d'une marche. Finaliste à Indian Wells, Stan Wawrinka conserve sa 3e place derrière Andy Murray, toujours numéro 1 mondial malgré son élimination dès son entrée de lice, et Novak Djokovic qui reste numéro 2 malgré son élimination en 8e de finale.
Et enfin la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Les Spurs de San Antonio ont réagi après deux défaites consécutives en dominant dimanche les Kings de Sacramento 118 à 102. Cleveland a difficilement battu les Lakers de Los Angeles à Los Angeles 125 à 120. Boston, deuxième de la conférence Est, s'est incliné à Philadelphie 105 à 99. Et puis victoire de Portland à Miami 115 à 104.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Toujours avec vous, Tatiana Mosso, place au dossier du jour. Le gouvernement malien annonce la tenue de la conférence d'entente nationale du 27 mars au 2 avril 2017. La CMA et la plateforme ne sont pas d'accord avec la tenue de cette conférence. Dans une déclaration, les deux groupes dénoncent la mauvaise préparation de la conférence d'entente nationale. À Bamako, plusieurs Maliens sont sceptiques quant à la tenue de la conférence d'entente nationale. Plus de précisions avec Kassim Traoré.
C'est la semaine passée que le gouvernement a suivi la restitution des travaux de la commission préparatoire de la conférence d'entente nationale. À l'issue de sa délibération, le Conseil des ministres a décidé de la tenue de la conférence d'entente nationale du 27 mars au 2 avril à Bamako. Mahamadou Kan, journaliste.
L'État malien, en se précipitant pour organiser cette rencontre, bon, c'est clair que nos dirigeants ont leur agenda, mais le peuple a aussi son agenda. Compte tenu du contexte actuel, les personnels sanitaires qui sont en grève depuis plus de 10 jours, partie de l'enseignement fondamental en grève. Nous sommes minés par cette crise-là. Moi, je pense que le pays n'a pas besoin de ça maintenant. Est-ce que la réconciliation est en marche pour pouvoir organiser vraiment cette conférence d'entente nationale?
Il ressort des rapports de la commission préparatoire que de larges concertations ont été menées avec l'adhésion des forces vives de la nation pour la tenue de la conférence d'entente nationale qui sera organisée autour de trois thèmes: la paix, l'unité et la réconciliation nationale. Aboubacar Niane, président de la jeune chambre économique.
Il y a beaucoup de choses à préalable qu'il faut faire avant de faire cette conférence parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent au niveau même du pays. Je crois qu'il devrait y avoir d'abord d'autres concertations et que nous d'abord expliquer davantage ces accords et que nous puissions comprendre réellement tous les contours avant de faire cette conférence d'entente nationale.
Conformément à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, la conférence d'entente nationale permettra d'approfondir les débats sur les causes profonde du conflit et d'élaborer une charte pour la paix, l'unité nationale et la réconciliation sur une base consensuelle. Coussetera comptable.
Bon, pour moi, pour faire cette conférence est nécessaire, mais est-ce que c'est le moment? Et encore la date fixée? Est-ce tout ce qu'il faut pour pouvoir bien écouter chacun? Est-ce qu'on a pu mettre tout cela ensemble? C'est ça mon inquiétude. Et aussi, pour pouvoir faire ça, comme je l'ai si bien dit, ça va passer forcément par bien connaître les causes pour pouvoir échanger. Donc, à mon avis, c'est nécessaire, mais la date fixée, je trouve qu'on va essayer de faire quelque chose seulement qu'on veut le faire. Sinon, je ne pense pas que ça peut donner le résultat qu'on veut, si on tient réellement à l'affaire à cette date.
Dans une déclaration, la CMA et la plateforme ne se reconnaissent pas dans l'organisation de la conférence d'entente nationale. Pour eux, les concertations régionales ont été menées partout, sauf dans la région de Kidal. Ils ont aussi mis l'accent sur la façon unilatérale dont la conférence d'entente nationale a été préparée. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Et on part au Gabon, où la Confédération syndicale dynamique unitaire et trois mouvements ont été interdits d'activité par le gouvernement. Syndicalistes, sociétés civiles et mouvements étudiants se sont réunis ce lundi matin pour exiger l'annulation de l'arrêté ministériel accusant le syndicat de violence et troubles à l'ordre public. Dynamique unitaire a réitéré ce lundi son intention de boycotter le dialogue politique prévu le 28 mars et le durcissement de la grève qui dure depuis des mois. Nathalie Barge a joint le président de la Confédération, Jean-Rémy Yama.
Toutes ces déclarations ont fustigé le comportement irresponsable du gouvernement. Au lieu de trouver des solutions de crise, ils enveniment la situation. Les syndicats de l'éducation nationale ont décidé de ne participer à aucune rencontre avec la tutelle si la CONACYSED n'est pas rétablie. et les ONG Educap Gabon et la plateforme des mutuelles des étudiants et des élèves des coopératives ont reconnu qu'à cette date, le 20 mars, plus rien n'est rattrapable. Le gouvernement devait avoir l'honnêteté de déclarer l'année blanche au Gabon parce que terminer une année dans de telles conditions, ce serait inadmissible pour nos enfants.
Et est-ce que la grève continue?
Bien entendu, la grève se poursuit et elle s'est durcie même. Parce que même, vous savez, au niveau de la CONASICED, il y avait certains établissements du primaire qui n'étaient pas en grève. Mais ce matin, il y a eu quasiment la plupart des établissements à l'intérieur du pays. En réaction à la décision du gouvernement, les écoles se ferment les unes après les autres. Nous avons par exemple tous les lycées et collèges catholiques qui sont fermés. Nous avons également les plus grands lycées et collèges de la capitale. Donc c'est l'indignation totale et c'est l'incompréhension aussi parce qu'on ne peut pas suspendre une confédération syndicale et ignorer les textes de cette manière. Donc le mouvement de grève se poursuit.
Le gouvernement accuse la CONASICED notamment de troubles à l'ordre public, entraves à la liberté de travail, violences et voies de fait. La CONASICED donc est membre de Dynamique Unitaire. Qu'avez-vous à répondre à cela?
Ce sont des accusations fallacieuses parce que trouble à l'ordre public, violence manifeste, ce sont des infractions qui doivent être constatées par les officiers de police judiciaire. Vous savez que la notion de trouble à l'ordre public répond à un certain nombre de principes. Et si le gouvernement avait constaté ces dérives, le gouvernement devait non seulement saisir les syndicats, mais pouvait également saisir la justice. Parce que c'est la justice qui peut suspendre un syndicat. Parce que la Convention 87, à son article 4, est claire. Les organisations syndicales ne peuvent être dissoutes ou suspendues par voie administrative. Or, la décision du gouvernement est une voie administrative, ce n'est pas une voie judiciaire. Donc, nous ne reconnaissons pas les allégations du gouvernement.
C'était Jean-Rémy Yama, président de Dynamique Unitaire, joint à Libreville au Gabon par Nathalie Barre.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le président rwandais Paul Kagame a rencontré lundi pour la première fois le pape François lors d'une audience au Vatican, audience au cours de laquelle le souverain pontife a imploré à nouveau le pardon de Dieu pour les péchés et manquements de l'Église et des membres et de ses membres durant le génocide rwandais de 1994. Arzuma Compaoré a joint à Kigali Naftal Aishakiye, secrétaire exécutif du collectif Ibuka.
Permettez-moi de parler en tant que président du génocide. Et en tant que le secrétaire exécutif d'Ibuka, sa visite à Rome, et pour nous, c'est grand chose. C'est une grande chose parce que chaque fois qu'on parle du génocide qui a été effectué ici, connu ici au Rwanda, chaque fois qu'on en parle, on parle aussi de l'or qu'a joué les membres de l'Église catholique. On a vu des prêtres et même ses supérieurs qui ont donné l'ordre aux gens de commettre le génocide, de détruire les églises dans lesquelles il y avait des réfugiés touchés par le génocide. Donc, pour nous, nous attendons un mot de la part du pape, si possible, de demander pardon en tenant compte de ce rôle qu'a joué les membres de l'église.
Est-ce qu'au niveau local, s'il y a déjà eu des actions qui ont été prises par l'Église au niveau local?
Il y a eu des actions qui ont été menées par l'Église. Et donc, de 1994-95 jusqu'à nos jours, il y a aussi un pas franchi. Et je crois, pour le moment, l'Église catholique participe aux activités commémoratives et joue aussi un rôle dans le processus d'unité et réconciliation des évêques catholiques demander pardon à cause de membres de l'Église catholique qui ont participé au génocide, comme je disais. Et donc ça aussi, ça nous a montré que vraiment l'Église catholique reconnaît les faiblesses de leurs membres pendant ou face au génocide perpétré contre eux tous. Je crois que le sentiment national, le sentiment des Rwandais, et 23 ans après, les Rwandais sont contents d'un pas qui a été fait par le gouvernement dans le domaine du développement, dans le domaine d'unité et réconciliation, dans le domaine de la justice, dans le domaine de la reconstruction du pays.
C'était Naftal Aïchakié, secrétaire exécutif du collectif Ibuka.
Salut à tous, c'est Nathalie Barge. Juste un petit mot pour vous dire que le magazine au féminin a fini son temps et qu'il passe le relais à une nouvelle édition toute fraîche, Le Monde au féminin. Dorénavant, diffusé le mardi et le samedi à 19h. Ne manquez pas ce programme interactif, dynamique et plus riche en rubriques. Le Monde au féminin aborde aussi des questions qui préoccupent la jeunesse. Alors soyez tous au rendez-vous le mardi et le samedi à 19h sur VOA Afrique.
Direction le Togo à présent pour la deuxième journée du championnat national de football féminin qui a été joué ce samedi 18 mars. Au total, 8 rencontres ont été disputées. Notre correspondante à Lomé a suivi le match entre Atleta FC et le club Les Amis du Monde. Un reportage signé Kayi Lawson.
Le derby de cette deuxième journée du championnat national de football féminin au Togo a opposé les deux meilleures équipes de la capitale Lomé. Atleta FC en maillot blanc et le club Les Amis du Monde en bleu ont livré un match digne d'une finale de compétition à la fois tactique et physique. Atleta Football Club a dominé la rencontre et l'a remportée sur un score de 3-1. Théophile Pakpokoumi est l'entraîneur d'Atleta FC.
Ah oui, je suis très content de mes filles. Elles ont bien mouillé le maillot et on a eu la victoire. Le championnat, c'est comme c'est une course de résistance. Nous allons essayer d'étudier les matchs un à un pour pouvoir arriver à être équipe championne du Togo. C'est ça notre objectif.
Le club Les Amis du Monde, première équipe féminine togolaise de football créée en 1992, est-elle rattrapée par l'âge? C'est pas le cas, rassure la coach Akouri Mouse Dekou, qui estime avoir joué avec une équipe B.
La défaut de l'ami du monde, c'est qu'on n'a pas d'effectif. On a trop de blessés. Vous le savez. Et le match qu'on avait joué à Palibé, on a 4 au moins 6 blessés. Et je sais que dans l'avenir, on va chercher à travailler un peu de physique et tactique aussi. Et les joueurs sont déjà techniques. Donc ça va aller.
Les amoureux du football féminin ont fait le déplacement du stade pour suivre ce match du premier championnat togolais de football féminin qui suscite de l'espoir. L'ami Tchédré, une ancienne joueuse.
Je pense que c'est une très belle initiative du comité exécutif de la Fédération togolaise de football. Ça fait déjà plusieurs années que le football féminin se joue dans notre pays, mais jamais ce championnat national. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous recommençons tout à zéro. Quand vous voyez les matchs qui se jouent depuis le début de ce championnat, ce sont que de jeunes filles, très jeunes. Et dans l'avenir, je pense que c'est prometteur.
Débuté le 11 mars dernier, le premier championnat de football féminin au Togo se joue entre 16 équipes réparties sur tout le territoire national. Ce coup d'essai va permettre au Togo de détecter des talents afin de former une équipe féminine capable de s'engager dans des compétitions continentales. Kayi Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
We were staying in Paris. To get away from your parents. And I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Out on the terrace, I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we'll get away with everything.
Et on clôt cette édition sur un joli titre de Chainsmokers Paris. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Michel Joseph, à la console John Dryden et à la présentation Tatiana Mosso. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com 24 heures sur 24 à 13.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.